Le prophète Amos. Il y en a d'autres, hein, mais on passe, hein, on doit lire toute la Bible. Hein. Voilà. En papier Bible, hein, ça fait, je sais plus, hein, 3000 pages, tout ça, donc c'est rapide, hein, c'est rapide. Dieu envoya aussi Amos à son peuple. Le prophète annonça à Israël les pires catastrophes. Ah, ce n'est que pour me réjouir. Puis enfin, le pardon divin. Ouais. Il lui répéta. Prépare-toi, Israël, à la rencontre de ton Dieu. Le cortège de ses fléaux se déploie. Les populations vont s'acheminer en convoi de captifs vers le pays de l'exil. Ah, on est dans les années 600 avant Jésus-Christ, 590, et il dit, vous avez les païens qui vont arriver et détruire le royaume d'Israël, le royaume des 10 tribus du Nord. Oh, 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 oui. En ce jour-là, Amos chapitre 9, verset 11, donc c'est les livres dans la Bible, vous avez, quand un prophète a parlé, on a pris où il a écrit lui-même, où on a écrit sa prédication, c'était les saints prêtres du temple de Jérusalem ou les saints prophètes lettrés, parce qu'ils n'étaient pas tous lettrés les prophètes, hein, qui ont écrit leur prédication, le livre d'Amos, le... Élie, c'est le livre des rois qui sont des saints lévites qui ont écrit la vie d'Élie. Élie n'a pas écrit, mais il a agi, hein, il est parlé. Chapitre 9, verset 11. En ce jour-là, je relèverai la hutte délabrée de David. Je murerai ses brèches et je relèverai ses ruines et la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois. Fin du royaume d'Israël. Vous avez une petite carte, si vous avez de toutes bonnes lunettes, voyez. Royaume de Juda en bas. Oh, Gaza. Vous avez vu? Oh, Gaza. Ascalon. Jopé. Voyez. C'est les Palestiniens, vous savez, ça vous dit quelque chose, les Philistins. Genre cananéens, ceux-là, hein. Vous avez des Palestiniens qui sont des Sémites, hein. Mais eux sont plutôt Philistins. Hein, oh, ça fait faire simplement environ 3000 ans qu'ils sont en guerre. Et vous avez les royaumes d'Israël. Donc vous avez le lac de Tibériade, la Galilée, Sichem et Samarie qui est la, comment dire, qui est la capitale. Béthulie, le mont Carmel en haut. Et en haut, vous avez la Phénicie avec Tyr, Sidon, Sarepta. Donc c'était une Phénicienne, hein, la veuve de Sarepta. Et alors, j'ai omis de vous raconter, donc c'est Aman, un général syrien qui arrive et qui va voir Élie, ou Élisée, je ne sais plus. Et il dit, alors il demande à tous ces sorciers de Phénicie, de Syrie, il n'y en a aucun, vous voyez, oh là là, le grand architecte, comment il s'appelle, mon Dieu, Hiram, hein, qui a aidé Salomon à construire le temple de Jérusalem. Eh ben, apparemment, sa grande science de Syrien idolâtre a pas servi à grand chose, et ce général phénicien, c'est pas Aman, hein, Naaman. Naaman, il est là, et il est là, il n'arrive pas à guérir de sa lèpre blanche. Une lèpre blanche non contagieuse. Et là, vous avez un juif qui est là, qui dit, ah, qu'est-ce que c'est que tous ces prophètes phéniciens, tous ces prêtres et tout, ils n'arrivent pas à me guérir. Et là, il y a un juif ou il y a un phénicien, un syrien qui lui dit, il paraît qu'en Israël, il y en a un, du Dieu des Juifs, mais alors, impressionnant. Ah bon? Alors il part avec de l'or, des vêtements, de la soie, et il va au pied du mont Carmel. Et il dit à Élie ou à Élisée, je ne sais plus, qu'est-ce que je peux faire pour être guéri? Prie ton Dieu. Et là, Élie, je crois que c'est Élie, il dit à Élisée, va lui dire, je ne sors pas pour lui. Bon, un peu vexé, hein, il n'est pas sorti pour moi, je suis quand même le général de l'armée de Syrie. Qu'il aille se plonger 3-7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. Alors il va lui dire, il fait, c'est tout. Il va pas sacrifier une dizaine de bœufs, de taureaux. Il sort pas pour invoquer son Dieu devant moi. Je vais aller faire trempette cette fois. Mais il y a des fleuves en Syrie aussi. Mais qu'est-ce que je vais aller me plonger dans le Jourdain ou dans le fleuve à côté. J'ai pas assez de bons yeux pour voir le fleuve qui descend du Mont Carmel. Alors il y a son serviteur qui lui dit, il vous aurait demandé quelque chose de plus compliqué justement, vous l'auriez fait, mais faites-le. Alors il se plonge cette fois dans le Jourdain, et la septième fois il sort avec une peau de bébé, totalement guérie, peau de pêche, hein. Impeccable, hein. Jamais il a été comme ça. Et là il revient et il dit, mais c'est extraordinaire, il donne l'or, les vêtements de soie et tout, et il dit, garde-les, et prie mon Dieu. Et il revient en Syrie, il dit, le Dieu des Juifs, il est extraordinaire. Lui, au moins, il guérit. Et donc, eh bien, figurez-vous que les Juifs du Nord, mélangés avec des païens, se corrompent de tellement que, finalement, malgré les avertissements des prophètes, les Israélites s'endurcissent dans l'impiété. Salmanazar, roi d'Assyrie, fut l'instrument du châtiment divin. Il s'empara de Samarie en 722. Les principaux israélites furent emmenés à Ninive. Et Salmanazar établit des peuplades païennes dans le pays devenu presque désert. Elles se mêlèrent encore plus qu'avant avec les hérésies et les idolâtries des rois d'Israël, avec les anciens habitants, donc on ne savait plus exactement qui était juif, qui était idolâtre. Ils ne feraient bientôt avec eux qu'un seul peuple, très méprisé par le royaume du Sud. Ceux du Nord s'appelèrent les Galiléens, ceux du Sud les Samaritains. La religion des Samaritains était un mélange de judaïsme et de paganisme. Mais bientôt ils n'ont plus le veau d'or, le dieu Apis. Et figurez-vous qu'il y a encore quelques milliers de Samaritains actuellement qui ont la religion mosaïque, mélangé avec du paganisme. Et ils ont un temple, ils essayent d'avoir un temple, parce qu'ils avaient fait construire un temple en Samarie pour que les gens n'aillent pas dans le temple de Jérusalem. C'est pourquoi les habitants de Juda les méprisèrent et pour se distinguer d'eux, affectaient de s'appeler juifs. Donc là, à ce moment-là, vous voyez, ceux du royaume de Juda prennent le nom de juifs plutôt que d'israélites ou d'hébreux. Voilà. Alors, vous avez ensuite le prophète Isaïe, mais lui est du royaume du Nord, du royaume légitime. Le royaume de Juda resta plus fidèle au Seigneur que celui d'Israël. Cependant, plusieurs de ses rois adorèrent les idoles, et souvent le peuple sombra dans un vrai paganisme. Deux rois défendirent avec vaillance la cause de Dieu. Un prophète et un roi, hein. Ézéchiel, prophète, et Josias, le saint Josias. Jonatas aussi était un saint roi. Deux grands prophètes prêchèrent avec zèle, Isaïe et Jérémie. Isaïe est le prophète par excellence, citoyen de Jérusalem, il a un culte ardent pour la ville de Yahvé. Voici le récit de sa vocation. Dieu lui apparaît probablement dans le temple de Jérusalem. L'année de la mort du roi Ozias, je vis l'Éternel assis sur un trône élevé. Des séraphins volaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Donc quand vous voyez dans l'iconographie un ange avec une paire d'ailes vers le haut, une paire d'ailes vers le bas et une paire d'ailes sur les côtés, c'est un séraphin. De deux, il se voilait la face, de deux, il se couvrait les pieds, de deux, il volait. Et il redisait sans cesse, ça vous dira peut-être quelque chose dans la liturgie, dans la prière publique. Saint, 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 le Seigneur Dieu des armées, les armées célestes. Sanctus, 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 dominus Deus, Sabaoth. Sabaoth, c'est les armées. Alors, c'est guerriers, c'est les anges, quand ils sont rangés en bataille, et qui vont dire, c'est quand la fin du monde? Hein? Et Jésus, qui au début était contre eux, on va patienter. L'ivraie, ça ressemble à du blé. Hein? Il faut attendre que l'ivraie pousse. Après, ça fait des épis pas beaux du tout et c'est pas du blé. Et donc, vous pourrez distinguer à la fin du monde entre les mauvais et les bons et vous couperez à ce moment-là la moisson. Et l'ivraie, vous le jetterez en enfer où il brûlera et le bon grain, il ira dans le grenier. Et là, en ce moment, Jésus, je sais pas s'il vire un peu colérique, et ça pourrait mal se passer. Hein, il n'y a plus que la Vierge Marie qui retient son bras plus ou moins fortement. Déjà, ça a commencé par le toit, elle s'est arrêtée à la voûte. Mon fils, ton bras est un peu lourd. Oui, mais j'en ai assez. Oui, mais bon, voilà. Bon, je parle de Notre-Dame de Paris, bien sûr. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le drone qui a filmé le plomb fondu. Vous savez que le plomb est rouge quand il brûle. Vous aviez une croix rouge impressionnante qui correspondait à la nef et au transept de Notre-Dame. Hein. Sur Paris, c'était absolument impressionnant. Sanctus, 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 dominus Deus Sabaoth. Alors, toute la terre est pleine de sa gloire. Plenis un celi et terra gloria tua. Et donc on redit ce que Isaïe a entendu. C'est pas rien, hein. Et qu'est-ce qu'il a vu? Un homme assis sur un trône. Dieu assis sur un trône. Dieu est un pur esprit. Mais qu'est-ce qu'il a vu, Isaïe? Mais il a vu l'incarnation. Tout simplement. Oui. Et alors, Isaïe, lui, dit: une vierge enfantera un fils. Je crois que c'est Isaïe. Hein. Élie, une femme enfantera. Et Isaïe, lui, comment dire, une vierge enfantera. La réaction religieuse du voyant. Alors lui, il voit Dieu. Et sous la forme d'un homme assis sur un trône. Hein. Pour moins que ça, il est lapidé par les pharisiens. Hein. Et alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et c'est le roi Yahvé qu'ont vu mes yeux. L'un des séraphins vola vers moi, et de sa main, il prit sur l'autel avec des pinces une pierre brûlante, un charbon. Et à chaque fois que le prêtre dit l'évangile, il s'incline et il dit, Seigneur, purifie mes lèvres avec un charbon ardent comme tu as purifié les lèvres d'Isaïe. Munda cor meum ad labia mea, Isaïe prophété calculum mundo inito. Il en toucha ma bouche. Et il dit, vois, elle touche tes lèvres. Ton péché est ôté et ta faute effacée. Ah oui, ah moi, okay, c'est sûr. Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui ira pour vous? Me voici, répondis-je, Isaïe, envoie-moi. Et Dieu dit, va. Alors là, je me suis trompé. Ah non, c'est Isaïe qui est allé voir Akaz. C'est pas Élie. Je me suis en train de confondre. Enfin, on va lire la Bible, ça sera mieux que moi. Voilà. En 734, les rois d'Israël et de Damas s'unirent pour forcer le roi Akaz de Juda à se joindre à eux contre la Syrie. Akaz trembla. Dieu dit à Isaïe, « Sors à la rencontre d'Akaz. » Donc, c'était pas Élie, excusez-moi. Et dis-lui, « Fais attention et sois tranquille. » Ne crains rien devant ces deux bouts de tison fumant, hein, les deux rois d'Assyrie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Isaïe obéit et alla trouver le roi. Akaz répondit à Isaïe, je ne demanderai rien, je ne veux pas tenter le Seigneur. Et Isaïe reprit, écoutez, maison de David. Donc Akaz, c'était avec quel roi? Élie. Akab. J'ai confondu entre Akab et Akaz. C'est légitime, non? Vous me pardonnez? Bon. Akaz, roi de Juda. Écoutez, maison de David. Et c'est Isaïe qui parle, mais c'est Dieu qui parle. C'est magnifique. On voit que Dieu a du caractère. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Car avant que l'enfant sache choisir entre le bien et le mal, le pays des deux rois qui t'épouvante sera dévasté. Hein, avant qu'un enfant, donc avant l'âge de raison, avant 2 ans, et ça sera plus rapide encore. Yahvé fera venir sur ton peuple des jours de paix. Et voici que la Vierge enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, elle, c'est Elohim, c'est Dieu. Un petit enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté repose sur son épaule, la croix. Et son nom est conseiller admirable. Dieu fort. Un petit bébé s'appelle Dieu. C'est quand même curieux que ce passage d'Isaïe n'ait jamais été censuré par les rabbins. Disons, oui, alors ils l'interprètent de 1000 façons comme ils savent interpréter. Mais Dieu fort. Père pour son peuple à jamais. Prince de la paix. Son empire s'étend au loin, il s'assied sur le trône de David. Isaïe, verset 35, chapitre 4. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, qui était le père de David. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de prudence et de courage, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur les apparences, mais il jugera les faibles avec justice. Il fera droit aux pauvres gens du pays. Il frappera l'homme violent des arrêts de sa bouche et du souffle de ses lèvres. De ses lèvres, il fera mourir le méchant. Alors, ce qui n'est pas mis là, c'est la phrase que j'aime beaucoup, c'est « Maison de David, il ne te suffit pas de me fatiguer, moi, prophète Isaïe, à pas m'obéir, à pas m'écouter, mais en plus, tu fatigues, mon Dieu. » Et Isaïe dit à Akaz, et aux gens, et au peuple, et aux hommes, vous fatiguez Dieu. Vous voyez? Fatiguez Dieu, on a assez de vous parler et que vous n'écoutiez pas. Ne vous suffit-il pas de me fatiguer que vous fatiguiez mon Dieu. C'est vraiment un cri du cœur de la part d'Isaïe, c'est absolument impressionnant. Voilà, donc Isaïe annonce l'incarnation. Impressionnant. Alors, est-ce que vous aurez Ézéchiel ? Oui, Ézéchiel, alors. Donc, j'arrête d'anticiper ce que je... En plus, je me trompe. Voilà. À droite, deux femmes offrent de l'encens au dieu Baal. Au centre, Dieu signale au prophète l'abomination du peuple. Une marmite bouillante symbolise les maux qui vont fondre sur Israël. À gauche, les ennemis qui seront l'instrument de la colère divine. Jérémie, le prophète des lamentations et de la passion du Christ. Dans Isaïe 53, vous avez le serviteur souffrant. Il portera les péchés du peuple. Il sera méconnaissable. Isaïe chapitre 53. C'est dommage qu'il ne l'ait pas mis ici. Jérémie était un campagnard qui ne demandait qu'à rester dans son petit village, à l'ombre de sa vigne. Or, Dieu l'envoie prêcher la ruine de Jérusalem. Le pauvre, il est là derrière ses bœufs. Et Dieu lui dit, « Maintenant, tu es prophète. » Jérémie, « Ah, ça ne pouvait pas mieux m'arriver. Va à Jérusalem et tu vas les engueuler pendant des années. » Ah bon ? Et ils finiront par te tuer. C'est bien. Vas-y. Merci. Où les idoles sont nombreuses et annoncer que la ville sera détruite. Détruite, hein. C'est l'exil, hein, à Babylone. Hein. Samarie est tombée dans les années 730, après la victoire d'Akaz et du roi de l'époque. Là, je crois que c'était Jonatas. Et voilà que le royaume du Nord va aussi être détruit. Alors, on interdit aux prophètes l'entrée du temple. Vous allez tous mourir si vous vous convertissez pas. Vous allez tous mourir. La ville sera détruite. Le temple sera rasé. Ça vous dit rien? Vous avez Cassandre qui dit, oh, la ville de Troie sera détruite. Et alors, par une malédiction des dieux païens, n'est-ce pas? À chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, personne ne la croyait. Oui. Donc, même dans les fausses religions, vous avez des traits, voyez-vous, de la vraie religion. C'est amusant, la guerre de Troie et Cassandre. Alors, on s'empare de lui et on projette de le mettre à mort. Jérémie s'en prend à Dieu avec une simplicité et une audace touchantes. Tu m'as trompé, Yahvé, et je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Je suis un objet de raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que je parle, je dois crier, annoncer violence et oppression. La parole de Yahvé est tous les jours pour moi un objet de honte et de risée. Malheur à moi, homme de lutte et de dispute avec tout le monde. Et c'est les plaintes aussi de Jésus, à un moment donné, quand il dit aux Juifs de se convertir, de s'aimer les uns les autres. Et ils le saisissent et ils le crucifient, ils le flagellent, et ils le font flageller par les païens et ils le crucifient. Jésus a tous les accents de plainte de Jérémie aussi. Tu es trop juste, Yahvé, pour que je dispute contre toi. Je voudrais néanmoins discuter avec toi, hein, comme le patriarche Job. Pourquoi la vie des méchants est-elle prospère? Et pourquoi les infidèles vivent-ils en paix? Hein, Jérémie sera lapidé. Hein. Isaïe, lui, on l'a coupé en deux avec une scie en bois. Hein. Dieu répond à son prophète découragé en lui demandant de s'en remettre à lui avec une absolue confiance. Il lui dit, si tu reviens à moi, je te ramènerai et tu tiendras de nouveau devant moi. Si tu sépares le précieux du vil, tu seras comme ma bouche. Eux doivent se tourner vers toi, mais toi, tu ne te tourneras pas vers eux. Et je ferai de toi, pour ce peuple, un solide mur d'airain, de bronze. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver. Qu'est-ce qu'il veut dire Dieu, puisque Jérémie va se faire lapider? Eh bien, quand Dieu dit ça, je dis, mais tu vas mourir en état de grâce? Tu vas mourir saint? C'est en ça que je te défends? Ah bon? Quand on est fidèle à Dieu, on n'est pas en bonne santé et riche? Ah non? Vous pouvez être malade, tétraplégique et pauvre. Mais réjouissez-vous, vous avez la foi et vous allez aller au ciel à votre mort. Merci. Oui, c'est le t-shirt protestant. Dieu me bénit parce que je suis riche en bonne santé. Et le t-shirt catholique, Dieu me bénit parce que je suis malade et pauvre. Oui. Jérémie accepte, il comprend. Son expérience personnelle lui fait saisir le sens de la destinée nationale. Le message qu'il doit transmettre est dur, mais il est voilé d'espérance. Si vous faites pénitence, vous serez sauvés. Voici que des jours viennent où je conclurai une alliance nouvelle avec la nation d'Israël et la maison de Juda, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, mais je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. C'est l'agneau de Dieu, la nouvelle alliance dans la nouvelle Pâque. La destruction de Jérusalem sera la préparation d'une nouvelle alliance plus intime entre Dieu et son peuple. Les prophéties se réalisèrent. Quelques années plus tard, Nabuchodonosor, le puissant roi de Babylone, qui avait écrasé la Syrie, c'est des Chaldéens, hein, marcha sur la Palestine et vint assiéger Jérusalem. Jérémie prêcha la soumission à Babylone. Ils viennent pour vous punir. Mais ni le peuple ni le roi ne voulurent écouter ses conseils. La ville, prise après un siège de 18 mois, fut brûlée et démolie. Le temple pillé, incendié avec un grand nombre d'habitants, furent massacrés. Le roi de Juda, Sédécias, descendant de David, hein, fut fait prisonnier avec toute sa famille. On lui creva les yeux. On le chargea de chaînes et on l'emmena à Babylone avec la plupart des habitants en 586. Lorsque les Babyloniens entrèrent à Jérusalem, ils trouvèrent Jérémie dans un cachot. Ils le traitèrent avec respect et lui permirent de choisir sa résidence. Il préféra rester dans le pays. Mais 2 mois plus tard, le peuple, qui restait encore malgré toutes ces destructions, émigra en Égypte, obligea le prophète à l'accompagner. Et c'est là que, à force d'entendre Jérémie, il dit « Mais convertissez-vous, vous êtes des pécheurs !» Un beau matin, ils ont pris des pierres et ils l'ont réglé son compte. Voilà. La ruine de Jérusalem lui arracha des plaintes éloquentes et douloureuses, appelées les lamentations, les jérémiades. Il annonça le Rédempteur en ces termes. « Voici que les jours viennent où je susciterai à David un rejeton. Il sera sage et fera respecter le droit et la justice. Son nom est le Seigneur. » Quoi ? Le Messie, le Sauveur attendu, promis, il aura comme nom quoi ? Le Seigneur. Mais c'est un homme providentiel ou c'est Dieu ? Voilà encore Jérémie qui dit que le Messie sera Dieu. Le prophète, qui était considéré comme un gêneur avant la ruine de Jérusalem, devint le grand soutien et le consolateur de la captivité. Ses écrits seront lus, relus et médités. Enfin, de son temps, ils l'ont tué quand même. Bon. Lamentation, chapitre 1, ou non, verset 1, je crois que c'est un seul livre, les Lamentations. « Vois, Seigneur, et regarde, vois s'il est une douleur semblable à ma douleur. Ce que le Seigneur a fait, comme il l'a dit, il m'a vendangé au jour de sa colère. » Jérémie, chapitre 14, verset 9. « Tu es avec nous, Seigneur, et ton saint nom a été invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas, ô Seigneur notre Dieu. » Jésus-Christ est assis sur un trône de saphir au milieu d'un arc-en-ciel. 4 animaux symbolisent les 4 évangélistes. Ézéchiel, prosterné, reçoit un parchemin comme gage de sa mission. C'est les prophètes de la captivité. Les Juifs sont en captivité. Ils ont tout perdu, temple, richesse, autonomie, politique. Dieu seul leur reste. Ils n'ont plus de terre, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus que leur religion. Et alors, vous avez des psaumes, des prières poétiques rédigées par les prêtres, les lévites. Ils disent... Nous sommes sur les bords des fleuves de Babylone et les Babyloniens nous disent « Oh, vous êtes juifs, chantez-nous des chants de votre culture. » Hein, ça fait exotique. Il dit « Comment pouvons-nous chanter alors que nous sommes en exil ? Nos harpes sont accrochées aux arbres et nous ne voulons pas les toucher. » En Babylonie, ils sont d'abord employés aux grands travaux de construction entrepris par Nabucodonosor. Mais assez tôt, leur situation s'améliore et ils peuvent se grouper en colonies. Plusieurs même deviennent riches et influents à la cour. Mais la foi des Juifs se trouve en péril au milieu des païens. Le danger est écarté grâce surtout au prophète Ézéchiel et ensuite au prophète Daniel. Donc quand les Juifs sont prospères en Égypte, quand les Juifs sont prospères en Babylone, ils finissent par adopter la religion du pays où ils sont. Et Dieu leur dit « Non !» Ézéchiel est un prêtre, donc il est de la famille d'Aaron, de la tribu de Lévi, qui exerça le ministère prophétique de 593 à 571. Il fut transporté à Babylone après la ruine de Jérusalem. Dans une vision, Dieu lui a donné la mission de parler aux enfants d'Israël pour leur rendre courage. Dieu me conduisit dans une vaste plaine, couverte d'ossements humains. Je contemplais ces ossements blanchis par le temps. « Fils de l'homme, me dit l'Éternel. » Ces ossements desséchés revivront-ils ? Seigneur, vous le savez. La voix lui répondit, prophétise sur ces ossements et dit, ossements arides, voici ce que dit l'Éternel, mon souffle va vous pénétrer et vous revivrez. J'y ferai croître des chairs et je recouvrirai d'une peau nouvelle. Je vous donnerai un esprit et vous vivrez. Je reproduisis l'ordre divin. À ma voix, un cliquetis sonore se fit entendre. Les os s'agitèrent et se réunirent. Chacun se plaça dans sa jointure. Ils se couvrirent de nerfs, de chair et d'une peau nouvelle. Mais ils ne vivaient pas. Et le Seigneur me dit, Fils de l'homme, prophétise et dis à l'Esprit, Viens, Esprit, les 4 vents du ciel, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je répétai l'ordre du Seigneur, aussitôt l'Esprit pénétra ces cadavres gisants, Ils ressuscitèrent et se levant sur leurs pieds, ils formèrent une armée innombrable. Ézéchiel a vu la résurrection des morts. C'est pas rien quand même. Et donc, quand on dit, ah oui, mais ceux qui sont morts en mer, leur corps a été dissous, leurs ossements ont été dissous, bouffés par un requin, dissous, absorbés par une étoile de mer ou par un mollusque, pour faire du calcaire, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu nous dit dans l'Apocalypse, je ramènerai les morts de la mer, je ramènerai les morts de la terre. Voyez, c'est pour ça aussi qu'on respecte les ossements. Et des saints comme reliques, mais aussi tout ossement humain, et qu'on ne pratique pas l'incinération. Mais quelqu'un qui est brûlé par accident, comme ces pauvres 30 soldats qui, dans l'hélicoptère, certains ont été bien brûlés, eh bien la cendre de ces os, le bon Dieu le prendra pour leur redonner un corps. Ézéchiel. Et puis Jésus, et puis toute la tradition. Les Sadducéens finissaient par plus croire en la résurrection des morts, donc ils croyaient plus dans leurs prophètes. Oracle sur le berger et les brebis. Donc là, c'est une prophétie de la passion de Jésus, du Messie. J'aurai soin de mes brebis et je les ferai paître sur la montagne d'Israël, au bord des ruisseaux. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, je guérirai celle qui est malade. Celle qui est bien portante, je veillerai sur elle, le bon pasteur. Je susciterai pour le mettre à leur tête un berger qui les fera paître mon serviteur David. À nouveau la prophétie de Jacob. Hein. C'est pour ça que les Juifs en ce moment ils disent le Messie, Meschiar arrive. Et que voulez-vous, pendant des siècles on leur a dit que le Sauveur allait arriver. Ceux qui n'ont pas cru que Jésus était le Messie. Mais ça va faire maintenant 2019 ans qu'ils attendent encore, ils sont là. Vous avez les bergers de Bethléem, ils disent, on nous a dit que c'était le rejeton de David, le roi. Non, ce n'est pas lui, on attend toujours. Voyez. Mais quand l'Antéchrist reconstruira le temple de Jérusalem, et que ça sera le centre de la religion mondiale, avec contraception, avortement, euthanasie des vieux, et des malades, débauches sexuelles, vous avez les juifs pieux qui vont dire, bon, on a reconstruit le temple, voilà le Messie, mais enfin, c'est pas tout à fait les 10 commandements. On doit en attendre un autre, ou alors Jésus était le Messie. Parce qu'ils vont commencer par se faire couper en morceaux, comme les chrétiens, par l'Antéchrist. Parce que s'ils n'adoptent pas la religion mondiale, les juifs pieux seront martyrisés. Et comme ils vont mourir, ils vont se dire, bon alors, c'est à nouveau Hitler. Oui, mais il est là au nom de Dieu, de l'amour et tout ça. Oh, alors c'est qui alors notre Messie? Et c'est pour ça que je vais vous faire visiter, pour ceux qui le peuvent, le temple de Jérusalem, qui se trouve rue de Belgrade et au Champ de Mars, le 15 décembre à 14h30, parce que les lucifériens, adorateurs de l'Antéchrist et de Lucifer, ont fait un temple qui a une miniature de 7 mètres sur 10 environ du temple de Jérusalem, sur le Champ de Mars, avec des représentations de Lucifer, s'il vous plaît. Voyez ? Parce que la franc-maçonnerie est kabbaliste, profondément kabbaliste. Et anti-chrétienne. C'est lui qui les fera paître et sera pour elle un berger. Ézéchiel s'appliqua à relever l'espérance des Juifs. C'est parce que Dieu seul vous reste, leur dit-il, que vous devez mieux comprendre ses promesses. L'épreuve est une punition, elle opère le détachement. Dieu vous a puni pour vous purifier. Mais il vous reste fidèle. Vous serez toujours la nation choisie. Voyez ? Vous avez un enfant qui prend une baie empoisonnée et qui la porte à sa bouche. Vous avez le papa qui prend la main de l'enfant et qui l'écarte. L'enfant prend de sa main gauche la baie pour la manger. Et là, le père lui fout une claque. C'est méchant ? Ou c'est parce qu'il veut que son enfant soit pas empoisonné ? Un bon nombre de juifs se laissèrent convaincre par le prophète. Ils resserrèrent l'union entre eux et suivirent avec ténacité les préceptes de la loi de Moïse. Leur âme resta attachée à Jérusalem et à son temple. Ils formèrent cette communauté juive qu'on appela le judaïsme. Par la sérénité de ses reproches, la vigueur de ses préceptes et l'abondance de ses promesses, Ézéchiel devint véritablement le sauveur du peuple pendant son exil. Voilà ce que dit Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. « Je ne veux pas la mort du pécheur, dit le Seigneur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. » Chapitre 33, verset 12. « Si un juste abandonne sa droiture pour commettre le mal, il mourra. » Donc vous avez été bon toute votre vie, et c'est la fin de votre vie, vous devenez orgueilleux, jaloux, méchant et mauvais, et en pleine conscience, vous allez griller en enfer. Même si vous êtes allé à la messe toute votre vie. Oui. Si vous êtes pourri, mauvais et méchant, ça ne vous servira à rien, et bien au contraire. Parce qu'en enfer, vous serez là et dites, tiens, toi t'es allé à la messe, tu t'es confessé, tu t'as communié, et t'as terminé comme une vraie crapule. Et une ordure finie. Ouais. Alors ça, c'est pour vous faire peur. Et si le méchant renonce à sa malice pour faire le bien et être honnête, il vivra pour cette raison. Voilà. C'est pas pour ça qu'il faut vous dire, bon, ben maintenant, je vais vivre n'importe comment, et une semaine avant de mourir, je vais être touché par la grâce. Ça, c'est pas sûr, hein. Assuré plutôt, hein. Peut-être plutôt celui qui va à la messe, qui se confesse et tout, et puis qui à la fin de sa vie reste comme ça, hein. Voilà. Esdras, prêtre et docteur de la loi, rassemble les juifs au temple et leur fait la lecture publique des livres saints. Néhémie et le peuple écoutent cette lecture dans un profond recueillement. Ça, c'est le retour de la captivité. Jésus s'est appliqué à lui-même cette prophétie du livre d'Isaïe. Écoutez cet extrait de la Bible, dans cette petite Bible, pour enfants. Objet de mépris et rebut de l'humanité, homme de douleur et de souffrance, comme ceux devant qui on se voile la face, il était méprisé et déconsidéré. Isaïe chapitre 53, versets 3 à 11. Je me demande comment les rabbins ne deviennent pas chrétiens lorsqu'ils lisent le chapitre 53, versets 5 à 11. Oui, qui le coupe, oui, parce que c'est une description de la vie de Jésus. Or, vous avez des livres d'Isaïe dans les manuscrits de la Mère Morte, hein. Donc c'est certain que c'est avant Jésus-Christ, 200 ans, 400 ans avant. Or, c'était nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était accablé. Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous sauve est sur lui et grâce à ses plaies, nous sommes guéris. Saint Paul dit, il s'est fait péché pour nous. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait même pas la bouche, comme un agneau conduit à la boucherie, une brebis muette. Oui, il a été retranché de la terre des vivants. Pour nos péchés, il a été frappé à mort. Franchement, hein, c'est impressionnant, hein. On a choisi sa sépulture au milieu des impies, c'est-à-dire il a été crucifié au milieu de deux assassins, un qui s'est converti et l'autre qui a persévéré dans son péché. Et à sa mort, il est avec les malfaiteurs, bien qu'il n'ait jamais fait de tort ni proféré de mensonge. Yahvé s'est plu à l'écraser et l'a transpercé. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et le père répond à son fils, « Mais mon cher fils, souviens-toi d'Isaac, souviens-toi d'Abraham et d'Isaac. C'est pour sauver tes frères que je te laisse être tué. » Et le fils, qui a une grande intimité avec le père, puisqu'il est le même Dieu, sait très bien tout ça. Mais dans sa nature humaine, il souffre. C'est pas parce qu'il sait qu'il nous sauve qu'il souffre pas. En plus, c'est un fils. Donc quand il voit sa maman pleurer, imaginez que Jésus, au moment où il voit sa mère pleurer, crucifiée devant lui, il dit « On arrête tout !» Hein ? Les autres, ils disent « Ouais, descends qu'on voit un peu si t'es Dieu !» Chac ! Les clous, pam, partent. Tam ! il descend par terre, il se reconstitue, la flagellation finie, les trous comblés, et là, il les tue tous. Et il dit à sa maman, console-toi, ça y est, c'est fini. Ah, là, ouf, stupeur. Et Jésus arrête la passion en voyant sa mère souffrir. Et les autres qui disent, mais descends de la croix, si t'es Dieu, descends de la croix. Et là, Jésus arrête tout et descend de la croix. Alors là, je ne serais pas là pour en parler, hein, s'il avait fait ça. S'il offre sa vie en expiation, il verra sa postérité. Il prolongera ses jours, et ce qui plaît à Yahvé s'accomplira par lui. C'est absolument extraordinaire. Après les épreuves de son âme, il verra la lumière et sera comblé. C'est toujours la même psaume, hein, la même chose. Le psaume 21, c'est « Dieu m'abandonne. Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je suis au milieu des taureaux qui me déchirent avec leurs cornes. Mon cœur se fond dans mon âme comme une, dans mon corps comme de la cire. » Je ne sais plus si c'est dans le psaume 21 ou le psaume... Et après, mais tu me sauveras et je proclamerai ta louange au milieu du peuple. Après les épreuves de son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par ses souffrances, mon serviteur justifiera des foules et en s'accablant lui-même de leurs fautes. Retour de captivité. Alors, il va être 30. Je termine les prophètes en lisant rapidement. Et comme ça, ça sera le Nouveau Testament pour la prochaine fois. En 539, Cyrus, roi des Mèdes et des Perses, c'est pas les Médès, hein, pour ceux qui font des lectures parfois, voilà. Roi des Mèdes et des Perses, les Iraniens de nos jours, prit Babylone. Il permit aux Juifs déportés de retourner dans leur pays. Zorobabel, vous me direz qu'il a un nom d'idolâtre, que voulez-vous, ils ont vécu dans tous ces pays, hein. Prince de Juda, descendant de David, partit avec un premier contingent de famille. Cyrus leur remit les vases sacrés enlevés jadis au temple. Le chandelier sept branches en or. Mais par contre, Jérémie avait caché l'arche d'alliance. Ils sont partis dans les montagnes, ils ont tourné. Ceux qui accompagnaient Jérémie ne savaient plus où ils étaient. Ils l'ont mis dans une grotte, ils ont éboulé devant la grotte. Ils ont tourné, et voilà. Donc, vous avez Indiana Jones qui essaye de chercher l'Arche d'Alliance, et il la trouve pas. Hein. Et certains disent que l'Arche d'Alliance est à Rome, au Vatican. Non. Et quand les armées de Titus et Vespasien entrent dans le Saint des Saints, eh bien, ils trouvent rien. Reconstruction du Temple. Les Juifs louèrent le Seigneur par des cantiques d'action de grâce, et jetèrent les fondements d'un nouveau temple. Par rapport à Salomon, il était plus petit. C'est le deuxième temple. Le roi Hérode va l'embellir. Mais ça reste le deuxième temple. Donc quand il a été rasé par les armées romaines, actuellement, si on reconstruit un troisième temple, comme le souhaitent les kabbalistes et les lucifériens, et certains sionistes de bonne foi, et les protestants américains de bonne foi, eh bien, ce troisième temple blasphémera le vrai temple qui est le corps du Christ. Détruisez ce temple, et je le reconstruirai en 3 jours. Voyez ? Alors, quand vous avez des braves chrétiens qui disent « on va reconstruire le temple », il faut leur dire « non, le temple, c'est Jésus ». Donc, sous la conduite d'Esdras, le prophète Esdras et du prophète Néhémie, près de 50 000 hommes retournèrent en Judée. Reconstruction du temple. Les Juifs louèrent le Seigneur par des cantiques d'action de grâce et jettent les fondements d'un nouveau temple. Bientôt, de grosses difficultés surgirent. Le peuple, découragé, interrompit les travaux. Dieu suscita alors le prophète Agée, qui ranima les courages. Est-ce le moment d'aller habiter vos maisons luxueuses alors que le temple de Dieu est encore en ruine ? Secoués par la parole du prophète, les Juifs se remirent à la reconstruction du temple. Agée les excita par ses discours, et Zacharie, un autre prophète, par le récit de ses visions. Dieu punit les nations qui ont touché à Sion. Les grands empires disparaîtront, mais Jérusalem sera rétablie. Les Juifs se mirent aussi au travail pour relever les murs de Jérusalem. Les Samaritains voulurent les en empêcher. Ah, c'est pas gentil quand même. Mais Néhémie déjoua leur projet. Les murs de la cité furent rebâtis en 52 jours. Les Juifs furent encouragés par un autre prophète. C'est ce qu'on appelle les petits prophètes. Les grands prophètes, si je ne me trompe pas, c'est Élie, Ézéchiel, Jérémie et Daniel. Le prophète Malachie, ou Malachie, qui leur prédit la venue du précurseur, l'entrée du Messie dans son temple, le sacrifice universel de la victime sans tâche. Malachie, ou Malachie, je crois, le prophète Malachie, Malachie, c'est le primat d'Irlande qui a eu les visions sur les papes, Saint Malachie, en 1140. Mais Malachie, c'est le petit prophète qui dit « Le Sauveur va entrer dans le temple que vous êtes en train de construire, il est bien moins beau que celui de Salomon. » Et Jésus va rentrer dans le temple qui a été reconstruit après l'exil de Babylone en 539. C'est impressionnant, hein? Enfin, 52 ans plus tard, 52 mois. C'est 52 jours pour construire les murs de Jérusalem, pour reconstruire le temple. Il dit, mais ce temple, le Sauveur, le Messie va être dedans. Et quand vous savez que ce temple va être détruit en l'an 70, comment les Juifs peuvent lire Malachie sans se dire, mais c'est dans ce deuxième temps que le Messie est venu d'après Malachie. Or, il a été détruit, donc il ne pouvait venir qu'avant sa destruction. Donc Jésus est le Messie. Vous voyez ? Et le sacrifice universel dans le monde entier, c'est pas le sacrifice uniquement devant l'Arche d'Alliance. Et une fois par an, le jour de l'agneau pascal. Dans le monde entier, on peut offrir le sacrifice alors qu'on devait offrir le sacrifice de l'agneau pascal qu'à Jérusalem. Donc ça veut dire que c'est la Sainte Messe offerte dans le monde entier. Eh oui. Esdras, prêtre et docteur de la loi, reconstitua les Juifs en nation et leur donna un gouvernement. Il avait beaucoup travaillé à recueillir et à étudier les documents historiques de la nation. Il rassembla les Juifs au temple et leur fit la lecture publique des livres saints. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi, les paroles de Moïse, hein, du livre des Nombres et tout ça, de l'Exode. Néhémie et les Lévites calmaient le peuple en disant « Taisez-vous, ce jour est saint, ne vous affligez pas ». Alors certains disent « Non, ils n'ont pas eu le temps de lire tous les livres, rendez compte toute la Bible en papier Bible et tout ça, la Bible de Jérusalem, aux éditions du Cerf, ils ne l'avaient pas à l'époque, comment ils ont pu lire tout ça ?» Ils avaient des rouleaux, ils l'ont lu. Hein. Ils ont même mis un pupitre et les prêtres lisaient. Vous voyez, et le peuple écoutait tous les récits avec le mont Sinaï, tout ça, l'exil pendant l'exode, les 40 ans dans le désert. Il disait, mais c'est notre religion. Oui. Quelques jours plus tard, les enfants d'Israël se réunirent pour un jeûne solennel. Ils confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Ils promirent de nouveau d'observer la loi. Ce fut le renouvellement de la promesse du Sinaï. Dans la suite, les Juifs se rendirent à des réunions pour adorer Dieu et pour entendre l'explication de la loi. Ce fut l'origine des synagogues. Songe de Nabuchodonosor. Là, il remonte en arrière, avant Cyrus, et il vous parle du prophète Daniel. La seconde année de son règne, Nabuchodonosor eut des songes. Son esprit fut agité et le sommeil se retira de lui. Le roi fit appeler les magiciens, les enchanteurs et les chaldéens pour lui expliquer ses songes. Le Talmud de Babylone. Donc c'est là aussi que les Juifs ont pris de la sorcellerie. Ils ont pris de la sorcellerie des Égyptiens et ils ont pris de la sorcellerie des Babyloniens. Et la sorcellerie babylonienne, c'est pas rien du tout. Hein. C'est les... Comment dire... Vous avez une bande dessinée avec... qui est connu, les dieux babyloniens sont des dieux redoutables, hein, ce sont vraiment des démons. Et alors là, les Chaldéens répondirent, « Il n'y a pas d'homme sur la terre qui puisse faire connaître ce que le roi demande. Aussi le roi se mit en colère et il donna l'ordre de mettre à mort tous les prêtres de sa religion. Sympathique, hein, comme prince de la religion babylonienne. Bon, mes prêtres sont des gros nuls, je vais les faire tous mourir, avec leur famille. La nuit suivante, le secret fut révélé à Daniel. Dès le lendemain, il se présenta au roi Nabucodonosor, et Nabucodonosor dit à Daniel, « Es-tu capable de me faire savoir le songe que j'ai eu et sa signification ?» Daniel répondit, « Le secret que le roi demande, ni sage ni magicien ne sont capables de le faire connaître au roi, parce que c'est le futur et les démons ne connaissent pas le futur. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets et qui a fait savoir au roi Nabucodonosor ce qui doit arriver à la fin des jours. Ton songe, le voici. Tu regardais, et voici qu'une statue immense et splendide se dressa devant toi. Son aspect était terrible. Cette statue avait la tête d'or, fin, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses de bronze, les jambes de fer, et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre détachée de la montagne frappe la statue à ses pieds de fer et d'argile et la brise. Alors furent brisés en même temps le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Et ils devinrent comme la balle, c'est-à-dire la paille du blé, qui s'élève de l'air, c'est-à-dire l'espace où on bat le blé, de l'air A-I-R-E en été. Et le vent les emporta sans qu'on n'en trouve plus aucune trace. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est le sauveur, c'est le Messie, cette petite pierre. Et la montagne, c'est la montagne de Sion. C'est Jésus qui meurt hors les murs de Jérusalem et qui devient la montagne. Hein ? Voici le songe, sa signification, nous allons la dire devant le roi. Alors le roi lui fit de nombreux et riches présents. Il l'établit gouverneur sur toute la province de Babylone et le chef suprême sur tous les sages de Babylone. Parce qu'il lui a dit, cette statue, ce sont les empires qui vont se succéder, et nous, notre sauveur, notre Messie, détruira ces empires. Alors vous allez me dire, oui, mais l'Apocalypse dit que l'Antéchrist régnera sur toute la terre. Oui, enfin il faudra voir, après tous les châtiments qu'il y aura au début de l'Apocalypse, sur quoi il régnera, et quand il aura fini par régner, hein, par un gouvernement mondial et une banque unique, dont nous serons tous dépendants par une puce bancaire, comme nos cartes bleues actuellement, hein, et où vous ne pourrez ni acheter ni vendre, et si vous n'avez pas sur vous la puce, voyez, eh bien, Jésus balayera le royaume de l'Antéchrist en un instant. Le songe de Nabucodonosor désignait les empires des Babyloniens, la tête d'or, des Perses, qui allaient arriver après Nabucodonosor, des Perses des Édomites, des Grecs qui allaient détruire l'empire de Babylonie, et des Romains, le fer, qui, après s'être succédés les uns aux autres, seront remplacés par le royaume éternel du Christ. Vous voyez, l'Empire romain, qui a persécuté les chrétiens pendant 300 ans, a fini par devenir chrétien. Vision de Balthazar. Le roi fit un grand festin, ce roi Balthazar, buvant avec ses familiers dans les vases d'or enlevés au temple de Jérusalem. Quand soudain il vit une main mystérieuse écrivant sur les murs du palais royal « Mene, Tekel, Pares ». Daniel, mandé, donne à ces mots les sens suivants, c'est de l'hébreu, « compter, peser, partager ». Et il les applique au règne de Balthazar, dont les jours sont comptés, qui a été pesé et dont le royaume sera incessamment partagé entre les Mèdes et les Perses. Balthazar, successeur de Nabucodonosor, était babylonien. C'est Cyrus qui va rendre les objets sacrés du temple. Hein. Et Balthazar, lui, avait fait boire ses amis et ses prostituées avec les coupes de libation du temple de Jérusalem. Et les Mèdes et les Perses vont détruire l'empire de Babylone. Cette nuit-là, Balthazar fut tué et Darius le Mède reçut la royauté à sa place. Les empires et leurs chefs se succédèrent rapidement. Bientôt, ils seront remplacés par un empire céleste qui ne finira jamais et dont le chef, le Fils de l'homme, jouira d'une puissance éternelle. Il régnera sur la maison de Jacob à jamais et son règne n'aura pas de fin, dit l'ange au berger. Alors vous allez me dire, oui mais enfin, si ça se termine par l'apostasie et que le Fils de l'homme, quand il reviendra sur terre, ne trouvera pas la foi, si l'Église catholique vit la passion, comme nous dit le catéchisme de l'Église catholique de 1992, et qu'elle va être éclipsée et comme mourir à la fin des temps, où est ce règne éternel? Ben, ce règne éternel, c'est d'avoir pendant des siècles donné non seulement la grâce qu'avaient tous les hommes de bonne volonté à travers les siècles, mais en plus par les sept sacrements et par le baptême, la grâce à de nombreux peuples, et ensuite vient, si vous voulez, le point ultime et culminant du péché. Mais au moins, vous avez des catholiques et des chrétiens en Chine, vous avez des catholiques et des chrétiens au Japon, Saint-François-Xavier aujourd'hui, et donc, tous ont eu l'occasion de se convertir. Actuellement, les Chinois ne pensent qu'à l'argent et avoir des smartphones, et ont tué tous leurs bébés. Les Japonais ne pensent qu'au manga et à être des personnages de bande dessinée et se suicident toutes les 5 minutes. Mais au moins, on leur a prêché l'évangile. Voilà. Et nous, alors, voyez, on sera peut-être purifiés par la crise économique qui vient, qui commencera peut-être jeudi, hein, par la crise sociale, qu'on voudra calmer en écroulant la monnaie. Je ne sais pas. Je ne suis pas prophète. Mais voyez-vous, l'Ancien Testament est parsemé d'interventions divines. La Vierge Marie, c'est à La Salette, à Fatima, à Amsterdam, la Dame de tous les peuples, à Akita, qu'elle continue la mission des prophètes. Et l'Église catholique romaine, le Saint-Siège, le Vatican, le pape perpétuel, c'est-à-dire pas tel ou tel pape, François, Benoît ou Jean-Paul, ou Saint Pie X, mais le magistère romain infaillible. Lorsque le pape s'exprime en tant que successeur de Pierre, oblige à croire en matière de foi ou de morale tout le peuple, il est assisté par l'Esprit Saint. Eh bien, c'est le catéchisme. Donc, si même un pape ou un ange de lumière vous dit quelque chose contraire aux 10 commandements ou à la morale chrétienne, il sera un mauvais pape et sera même dénoncé par un pape futur ou par des cardinaux comme ne suivant pas la foi et la morale transmises infailliblement par les successeurs de Pierre. On reconnaîtra un faux prophète au fait qu'il abandonnera la vraie foi et la vraie morale. Il ne peut pas y avoir de changement dans le dogme. Et ça, c'est une protection extraordinaire que les papes ont toujours assurée. Donc ne craignez rien, ni un pape, janséniste et hérétique, rigide, ou un pape ultralibéral et démagogue. L'Esprit Saint n'abandonnera jamais l'Église catholique, et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle.